M. Seko, et bonjour à vous tous, là où vous êtes, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Montréal, Ottawa. Je vous souhaite un bon sabbat et j'aimerais vous présenter les salutations chaudes de nos frères ici en Melbourne, Tampa et aussi à Fort Lauderdale. Ils sont tous concernés à votre issue et ils m'ont demandé de vous saluer de leur part. Et j'espère que vous avez tous eu une bonne semaine de travail. Ça a été très productif pour vous tous. Et maintenant, vous êtes en train de vous reposer en ce jour qui est très magnifique, ici du côté de Clermont, là où j'habite. Il fait beau soleil, le temps est beau, c'est très magnifique. La verdure un peu partout et maintenant, bien que c'est difficile, bon, c'est pas, on ne peut pas se livrer à certaines activités, mais de toute façon, on apprécie la beauté de la nature et en plus, c'est le sabbat, un jour de repos que Dieu nous a donné pour nous reposer et pour l'adorer et aussi pour nous rapprocher les uns les autres. Bon, merci et pour tous, merci pour tout et j'apprécie beaucoup la sermonnette, ça a été très bien. Et maintenant j'ai une question pour vous ce matin. La question que j'ai, la persécution viendra. Êtes-vous prêt? La persécution viendra. Êtes-vous prêt? Chers frères et sœurs, dans la Bible, nous voyons des exemples d'hommes qui étaient prêts à donner leur vie pour obéir à Dieu et vivre selon son mode de vie, même jusqu'à la mort. Ces hommes ont démontré un grand amour pour Dieu, un profond désir de suivre Jésus-Christ et de marcher avec lui. Il fallait avoir la foi pour avancer, en faisant confiance à Dieu en toutes choses, et même lorsqu'ils ne voyaient aucune issue, ils maintenaient toujours la foi en Dieu, croyant que lui et lui seul les délivrerait et répondrait à leurs prières, même si la réponse n'était pas celle qu'ils attendaient. Et quelle que soit l'issue, ils mettaient leur confiance en Dieu et non en l'homme et non dans une organisation, non une partie politique. Ils sont venus à comprendre qu'ils auraient toujours à faire face à de sévères épreuves de persécution tant qu'ils marcheraient avec Dieu. Les apôtres en virent à comprendre qu'ils pouvaient s'attendre à être persécutés. L'apôtre Pierre l'a bien compris. Veuillez vous reporter à 1 Pierre au chapitre 4, lisons les versets 12 à 14. Dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Chers frères et sœurs, quelle affirmation, quelle consolation si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Chers frères et sœurs, après avoir pris la décision d'être baptisé, nous renouvelons cet engagement chaque année en prenant la Pâque. Dieu nous donne son Esprit Saint. Et c'est à ce moment que nous acceptons officiellement de garder ses commandements et de vivre selon son mode de vie. Comme je l'ai mentionné lors des deux derniers sermons sur la Sainte Alliance et le mariage, la Sainte Alliance que nous faisons lorsque nous nous marions, nous faisons également la promesse de nous préparer à épouser Christ. Mais il y a un prix à payer. Et quel prix devons-nous payer? Vous et moi. Veuillez vous reporter à 2 Timothée, au chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Chers frères et sœurs, la question que j'ai pour vous ce matin, êtes-vous prêt pour ce qui va arriver dans l'avenir, un avenir très proche? Si vous avez besoin d'un titre pour le sermon d'aujourd'hui, c'est « La persécution viendra, êtes-vous prêt ?» Resterez-vous ferme dans les moments difficiles, alors que nous nous préparons à d'autres flots, des guerres, des rumeurs de guerre et la persécution à venir. C'est une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Jésus-Christ a dit aux apôtres et aux autres premiers chrétiens qu'ils seraient persécutés. Cependant, la persécution ne sera pas vaine, car il y aura une grande récompense à la fin. Veuillez vous reporter à nouveau au chapitre 5 de Matthieu, Matthieu chapitre 5, et lisons les versets 1 et 12. Dans Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Depuis le début des temps, l'homme a toujours persécuté son prochain. La nature humaine gravite vers la persécution de ceux qui sont différents. Et ici, aux États-Unis d'Amérique, on est témoin de ces choses. Il y a beaucoup de factions, il y a beaucoup de divisions. On est divisé du côté racial. On est divisé du côté de nationalité, d'origine de notre nationalité. On est divisé sur du côté les côtés politiques. On est divisé sur la religion. On est divisé partout. Il y a maintenant les gens qui sont prêts à attaquer les autres à cause de leur philosophie, à cause de leurs croyances, ou bien il y a des différences entre la façon dont on voit les choses. et même du point de vue social. Et, chers frères et sœurs, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la religion. Le but de ce sermon n'est pas de répandre la peur, la crainte de la congrégation, de vous faire peur, mais d'avertir chaque membre du corps du Christ que la persécution est à venir. Et en tant que corps du Christ, nous devons être prêts afin de ne pas être au dépourvu. Vous savez, dans notre adage, on dit un homme averti en vaut mieux que deux. Nous devons prendre les avertissements au sérieux. Dieu nous a donné ces prophéties non pour nous effrayer, mais afin que, chers frères et sœurs, nous puissions être préparés. Nous pouvons être fermes dans la foi. Ne vous y trompez pas. À mesure que nous approchons de la fin de cette ère, nous serons mis à l'épreuve. Mais nous devons être prêts. Nous devons être forts. Nous devons avoir de la patience. Vous et moi avons été extrêmement bénis de pouvoir comprendre la prophétie biblique. D'autres personnes de la société actuelle ne se rendent pas compte de la terrible persécution qui est prophétisée dans un avenir proche. Vous savez, chers frères et sœurs, partout dans le monde, les gens meurent chaque jour. Et selon la Bible, une grande partie de la population mondiale mourront dû à la famine, à la maladie et aux guerres en cours. De nombreux chrétiens seront persécutés à mort dans l'avenir. Vous et les membres de votre famille doivent faire un choix. Vous devez faire un choix. La question pour vous, êtes-vous prêt à faire ce choix si nécessaire? Votre foi et votre amour pour Dieu resteront-ils faibles et suffisamment forts spirituellement pour persévérer jusqu'à la fin? Le Christ nous a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aurez-vous de la patience? Aurez-vous assez de foi, assez d'amour pour persévérer jusqu'à la fin? Chers frères et sœurs, nous devons commencer à réfléchir à ces choses maintenant. Nous devons nous préparer spirituellement en jeûnant, en priant pour la prochaine persécution et en étudiant la Bible dès maintenant, sans attendre que ces choses commencent à se produire. Nous ne pouvons pas être inactifs. L'apôtre Paul nous a dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour. Ce qui explique que nous avons la vérité. Nous savons ce qui va arriver. Nous avons la connaissance divine. Par contre, nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. Les persécutions à venir affecteront tout le peuple de Dieu, comme nous l'avions appris dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12. Oui, tous ceux qui désirent vivre pieusement dans le Christ souffrira la persécution. Ici, une question de choix. Si, et c'est très clair, c'est très simple, comme on dit dans notre langage, c'est comme l'eau qui coule sur les rochers. Si vous désirez de vivre pieusement en Jésus-Christ, vous devez faire face à des persécutions. Nous sommes tous conscients que la persécution va de pair avec le fait d'être chrétien. Et pour la suite du sermon, nous allons donc examiner quelques exemples bibliques de persécution du peuple de Dieu et comment ces exemples s'appliquent à nous aujourd'hui. Nous savons que certaines personnes influencées par Satan méprisent le mode de vie de Dieu et que ceux qui choisissent de vivre selon le commandement de Dieu vont être persécutés. Comme vous l'aviez entendu dans les annonces, qu'il y a des gens qui cherchent à persécuter une dame parce que cette dame allait à l'église. Et il cherchait comment il faut dire, ah bon, il faut enlever les enfants. Là, c'est vraiment terrible. Ce sont des choses, maintenant, et qu'on fasse. Il y a des choses qu'on fait face dans notre vie et de chaque jour. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre comment que il faut aller à l'église, il faut obéir à Dieu, il faut obéir aux lois de Dieu. Mais l'exemple de l'apôtre Paul peut nous en apprendre beaucoup sur la signification et le but de la persécution. Vous savez, l'apôtre Paul a subi de graves persécutions. Il a beaucoup souffert. Et c'est un monsieur qui a tout laissé à cause de l'évangile du Christ. Un monsieur qui avait vraiment une place bien marquée dans sa société. Un monsieur qui était très éduqué. Il était très instruit, il était instruit au pied de Gamaliel. Un monsieur qui avait tout, le prestige, il était respecté. Mais un moment, il a dit qu'il a tout regardé comme de la boue à cause de l'évangile du Christ. Et par contre, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, il a payé sa vie, le reste de sa vie, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Mais une chose, c'est qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il était prêt de quitter ce monde, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons cette même opportunité. Nous pouvons fixer nos yeux sur l'évangile du Christ. Nous pouvons fixer converger nos yeux sur le royaume de Dieu. Notre naissance dans sa famille. Et de dire comme l'apôtre Paul l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout laissé en arrière. Il regarde le but. Il a les yeux fixés sur le but. Il a les yeux fixés sur le prix. Vous et moi, voilà ce que nous devons faire. Nous devons laisser le monde derrière nous, les éléments, les rudiments de ce monde, les philosophies de ce monde, et à converger nos yeux sur la famille de Dieu, sur son gouvernement. Nous sommes dans une course. Nous devons tous courir afin de saisir le prix. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Le livre des Corinthiens présente une longue liste d'incidents concernant l'apôtre Paul. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul a mis en garde l'église de Corinthe contre les faux ministres qui s'exaltaient et se vantaient de leur grandeur. Veuillez vous reporter au chapitre 11 de 2 Corinthiens. Lisons les versets 23 à 27. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Ça, il était mort, c'était fini. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Verset 27. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. You know, il y a longtemps de cela, j'ai donné un sermon en anglais et je vais essayer de traduire ça en français. En anglais, c'est « What is your breaking point ?» Et en français, je traduis cela et « Quel est votre point de relâche ?» Vous savez, chers frères et sœurs, il y a un moment, après avoir tout essayé, et puis on ne peut pas, on ne peut plus continuer. On est tellement fatigué, on est lassé. On n'a qu'une chose, qu'une idée, c'est d'abandonner. De dire, ah bon, maintenant c'est fini, je n'en peux plus, c'est fini. Bon. Voyez, imaginez-vous être dans les chaussures de l'apôtre Paul. Un homme que Dieu lui-même a appelé parce que, vous savez l'histoire de l'apôtre Paul, pendant sur la route de Damas, il a vu une vision, il a vu le ciel ouvert, et Jésus lui a dit, Paul, Paul, c'était Saul à ce moment-là, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et vous savez tous le reste de l'histoire. Un homme que Dieu a choisi. Et maintenant, il fallait faire face avec tant de déboires, tant de persécutions, tant de souffrances. Ici, il a dit, 5 fois, il a reçu des Juifs 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39, donc avec une verge, peut-être une verge, vraiment dur. Ça, c'était douloureux. 3 fois, il a été battu de verge. 1 fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Ça veut dire qu'il était mort. Fréquemment en voyage. Maintenant, j'ai jamais été battu de verge comme l'apôtre Paul. J'ai jamais été lapidé comme lui. J'ai jamais été dans un accident près de la mort comme lui. Mais je sais que c'est dur, par exemple, en voyage. Parfois, je laisse chez moi et puis parfois, il faut attraper 2 vols pour aller dans dans mon lieu de destination. Parfois, on n'a pas le temps même de prendre son petit déjeuner. J'ai pas le temps de prendre mon déjeuner. Et parfois, c'est facile de passer toute la journée sans avoir de nourriture. Je sais, c'est vraiment difficile. Et maintenant, avec cette histoire de terroristes, maintenant, parfois, il y a, on doit faire la queue à l'aéroport et il faut enlever ses chaussures et on est vraiment fatigué, on est épuisé. Bon, je sais comment cette histoire de voyager. Mais maintenant, il a été en péril sur les fleuves. Il a été en péril de la part des brigands, des personnes qui voulaient le dérober. En péril de ceux de la part de sa nation, ses concitoyens, qui le haïssaient, qui disaient toutes choses de mauvais à son issue. En péril de la part des païens, des gens qui ne connaissaient même pas, mais qui ne connaissaient pas Dieu non plus. En péril dans les villes, c'est que sa vie était vraiment, il ne savait quoi faire. Et dans les déserts, sur la mer. Et cette dernière phrase, vraiment qui me touche le cœur, en péril parmi les faux frères. C'est quelque chose, chers frères et sœurs, parfois. Nous pensons que, bon, si nous sommes dans l'église, tous les gens de l'église sont des gens convertis, tous les gens de l'église, et doivent vous aimer, ils vont dire ce qui est droit, ils vont dire ce qui est juste à votre propos. Parfois, on pense que maintenant, et quand quelqu'un me fait du tort, maintenant, c'est ça. Mais l'apôtre Paul ici parle des faux frères. Du temps de l'apôtre Paul, il y avait des faux frères dans l'église. Des gens qui étaient dans l'église, mais qui n'avaient vraiment pas la conception de chercher Dieu, de travailler pour Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais c'était des gens, et comme maintenant, nous avons des gens qui sont dans l'église, parce que l'église, pour eux, c'est une société. Pour eux, l'église, c'est un lieu de faire des amis. Et ces gens-là ne cherchent pas vraiment à connaître Dieu. Mais ils étaient là. Et l'apôtre Pierre l'a bien dit, en péril parmi les faux frères. Des personnes qui cherchaient à lui faire du tort. À lui faire du tort. Qui cherchaient à lui causer de la peine. Et au verset 27, chef Jésus l'a dit, il a été dans le travail, dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, des nuits et sans sommeil. Vous savez, c'est dur quand vous allez au lit et vous ne pouvez pas dormir parce que vous avez des choses, vous avez des soucis. Et même pas des cauchemars parce que, je ne dis même pas des cauchemars parce que parfois les cauchemars sont mieux de quand on se repose, on a des rêves et c'est des cauchemars. Mais quand on se réveille, ah bon, c'était un cauchemar et on se sent bien. Mais des veilles, l'insomnie, quand on a de l'insomnie, on peut pas dormir, on peut pas vraiment se lever entièrement au sommeil parce qu'il y a des soucis. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul devait faire face. À la fin, vous savez, parfois quand on jeûne et puis on dit, ah bon, à la fin, j'ai de quoi à me nourrir. J'ai de quoi à manger. Mes chers frères et sœurs, quand on fait face à la faim, on n'a rien à manger et on n'a pas l'espoir de trouver quelque chose à manger. Ça, c'est difficile. Je me rappelle de ma jeunesse quand je travaillais pour l'Organisation mondiale de la santé et parfois je devais me rendre dans des villes où il n'y avait pas de boutiques, il n'y avait pas de restaurants, il n'y avait pas quoi que ce soit. Même quand on a l'argent dans ses poches, on ne peut pas trouver de quoi à manger. Et puis parfois quand on approche quelqu'un, on dit « Ah bon, et j'ai faim, j'aimerais bien. » acheter quelque chose pour manger, et puis le vous regarde, vous dites, ah, il n'y a rien. C'est vraiment pénible. Je me rappelle une fois, Je devais voyager pendant 4 heures. Et il y a parfois là, il y a un endroit, on devait laisser sa voiture parce que plus loin, on ne pouvait pas prendre la voiture parce qu'il n'y avait pas de route. Et on devait marcher sur ses pieds. On marchait, on marchait, on marchait, on est épuisé. Et puis, ah, j'étais soif. Et puis j'étais arrivé chez quelqu'un, on m'a donné son adresse. Et puis j'ai demandé, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Il y avait une dame qui m'a apporté un verre d'eau. Et quand, même en respirant, l'odeur de l'eau était vraiment terrible. Je ne pouvais pas boire de l'eau. Et c'était vraiment l'eau, vous regardez, le verre, c'était trouble, c'était pas propre. Ah, et puis, j'attendais et le dîner, parce que il fallait trouver quelque chose à manger. Et puis, bon, on m'a dit, ah, bon, on va préparer le dîner, tout ça. Et puis, il faisait soir, c'était vraiment... il était très tard à ce moment-là, et j'avais faim. Et puis, quand le moment de se mettre à table, j'étais content d'avoir quelque chose à manger. Et puis, quand j'essayais de manger, j'allais mettre quelque chose, une bouchée dans ma bouche. Qu'est-ce qu'il y avait dans la nourriture? Il y avait un cafard. Oh, c'était terrible. J'ai tout laissé. J'étais allé au lit sans rien boire, sans rien manger. Et voilà, c'était la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a bien compris ce genre de choses. À la faim, la soif et des jeûnes multiples. Au foie et à la nudité. Et c'est vraiment dur. Quand il y a le foie, quand il fait froid, je me rappelle, quand je suis arrivé aussi aux États-Unis, j'avais une chambre, je louais une chambre. Et puis à ce moment-là, je ne savais même pas le système de chauffage ici. Et dans ma chambre, parfois pendant la nuit, je faisais tellement froid, on s'est réveillé. Et puis même quand il y avait des couvertures, j'essayais de me couvrir, ça n'a pas marché. Et c'est vraiment dur. Et l'apôtre Paul a connu ce genre de choses. Frère, à travers toutes les souffrances et les persécutions, l'apôtre Paul a compté toute la joie de souffrir pour l'amour du Christ. L'apôtre Paul, c'est le monsieur qui nous a dit de nous réjouir toujours. Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, je le répète, réjouissez-vous toujours. Comment réagissez-vous à la persécution? Comment allons-nous réagir à la persécution? Répondez-vous par des sentiments de colère, de la haine ou un fort désir de vengeance? Certes, il n'est qu'un humain d'avoir envie de riposter, d'égaliser le score. Ok, je vais lui donner la monnaie de sa pièce. Je vais me venger. Notre nature humaine. Un œil pour un œil, un dent pour un dent. C'est ce que nous avions appris dans notre naissance. Mais est-ce là la leçon que Dieu enseigne à son peuple? Apprenons-nous ces choses dans notre Bible, de dire bon, maintenant, on m'a fait du tort. Maintenant, je vais riposter. Je vais égaler. Je vais vraiment et les faire savoir que je n'accepte pas ce genre de choses. Chers frères et sœurs, il serait bon de lire régulièrement les épîtres de Paul comme une étude biblique. alors que nous nous préparons à des temps plus difficiles à venir. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté un sermon de M. Appartient. Son premier sermon, il a fait un sermon sur la vie de l'apôtre Paul. Il a commencé son sermon par Romains chapitre 8, verset 28, que l'apôtre Paul a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas une partie par ce que nous aimons, ce que nous acceptons. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Paul nous a enseigné comment nous devons utiliser le don du Saint-Esprit. Car il faut une maturité spirituelle pour tendre le jour. Il faut une maturité spirituelle pour aller vers l'avant, pour ne pas riposter, pour ne pas se venger. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'huile dont nous avons besoin. C'est l'huile, les 10 vierges, les 5 vierges. Sages avaient besoin. Chers frères et sœurs, les 5 vierges sages avaient assez d'huile pour tenir jusqu'à la fin. Mais les 5 autres, ce que nous appelons les folles, n'avaient pas assez d'huile. Vous et moi, nous devons prier Dieu chaque jour de notre vie, de nous donner de son huile. Nous avons besoin de son aide, son Esprit Saint. Nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de tous les fruits du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons être comme les 5 vierges sages qui ont conservé assez d'huile en faisant des choses que Dieu espère qu'ils font. Chers frères et sœurs, il y a dans la Bible, nous avons un exemple. C'est l'exemple d'Étienne. Étienne était l'un des premiers diacres de l'Église. Étienne a souffert et Étienne nous a laissé un bon exemple. Vous savez, chers frères et sœurs, quand on est diacre dans l'église, on a beaucoup à faire. Parfois, on pense que bon, et un diacre, c'est quelqu'un qui est là. Mais Dieu a choisi Étienne, a choisi les diacres à ce moment-là pour faire un travail vraiment, un travail spécial. Je me rappelle quand j'étais ordonné diacre pour la première fois, je pensais, ah bon, non, c'est bien. Parce que je ne savais même pas qu'on allait m'ordonner en tant que diacre. Et le jour où j'étais à l'assemblée, et puis on a dit, monsieur docteur Méridith a dit, bon, aujourd'hui, on va ordonner quelqu'un. Et puis tout le monde se regardait, les uns les autres. Et moi aussi, j'ai regardé ma femme, je ne savais que penser. Et puis, c'est à ce moment-là que Dr. Méridith a dit, ah bon, et Dr. Pierre, si vous pouvez venir vers moi. J'étais vraiment, c'était vraiment dur parce que même marcher, pour aller vers lui, c'était vraiment difficile. Et je suis, par nature, je suis timide et tous les yeux braqués sur moi. Moi, pourquoi moi? Et après cela, c'était vraiment beaucoup de responsabilités, il y avait du travail à faire et c'est pas facile. Et parfois on a beaucoup de responsabilités en tant que diacre, il faut venir très tôt dans les assemblées, il faut on est toujours le dernier à partir, il faut balayer, il faut prendre soin du bâtiment et même si quelqu'un est malade, il faut prendre soin de cette personne, il faut aller vers cette personne. Si quelqu'un a besoin un service, quelle que soit la nature du service, il faut être là, il faut être présent. Même pendant les fêtes, pendant la fête des tabernacles, il y a des gens qui sont non seulement ils sont responsables à faire à prendre soin de l'otage, mais aussi parfois ils sont responsables des équipes. Il y a des équipes pour prendre soin des voitures à l'extérieur, du bâtiment, des chaises, tout ça, et même les gens qui arrivent tard, il faut prendre soin d'eux. Il y a beaucoup de choses, et c'est pas seulement les diacres, mais les anciens aussi. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et ça, c'était le cas pour Étienne, qui était un diacre. À ce moment-là, il n'était même pas ministre, mais il était un diacre. Mais il était bien imbu de l'évangile du Christ. Il était bien imbu. Il avait beaucoup de connaissances et il devait vraiment confirmer sa croyance. Et il l'a fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On l'a lapidé. C'était vraiment dur. Est-ce que, en tant que responsable, ou en tant que, quelle que soit votre position, êtes-vous prêt à devenir un Étienne? Êtes-vous prêt à souffrir comme Étienne? Vous savez, chers frères et sœurs, Satan s'en prend aux dirigeants. Satan est toujours prêt à attaquer les dirigeants de l'Église. Mais nous devons être sur nos gardes. Quand quelqu'un vient vers vous avec un sujet vraiment, peut-être, c'est peut-être cette personne est sincère. Mais parfois ça peut être négatif, une question, un sujet négatif. Avez-vous de quoi? Avez-vous la détermination? Avez-vous assez d'huile en vous pour répondre avec amour, avec foi, pour dire bon, pour répondre convenablement? Parce que il y a des gens, et surtout ces jours-ci, qui sont, je ne veux pas utiliser le mot rébellion, mais qui pensent, ok, et l'Église est une base démocratique. On doit penser maintenant, on doit m'écouter, et si on ne m'écoute pas parce que j'ai mes opinions, alors que l'Église ne fonctionne pas ainsi, chers frères et sœurs. Nous devons penser que Dieu agit par des êtres humains, il a placé dans son Église des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des personnes qu'il a placées pour diriger son œuvre. Alors que Satan, lui, il veut tout faire pour diviser, il veut tout faire pour semer la division. Et nous devons prendre conscience de tout cela. Nous devons toujours être prêts à donner une réponse. C'est pas là le sujet de mon sermon, mais nous pensons à ce genre de choses. Et même les gens de l'extérieur, ça c'était le cas pour Étienne, qui avait une opportunité, qui avait l'opportunité de parler à propos du Christ. Veuillez vous reporter au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7. Actes des Apôtres, au chapitre 7, nous allons lire les versets 54 à 60. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils eurent le cœur brisé et ils lui grincèrent les dents. Verset 55. Mais lui, en Étienne, rempli du Saint-Esprit, regarda au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et dit, regardez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Ils crièrent alors d'une voix forte, se bouchèrent les oreilles et concoururent vers lui d'un commun accord. Verset 58. Et ils le chassaient de la ville et le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Verset 59. Et ils lapidèrent Étienne, comme il invoquait Dieu et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Puis il s'agenouilla et cria d'une voix forte, Seigneur, ne les accuse pas de ce péché. Ce frère et sœur, c'est vraiment difficile pour nous quand quelqu'un nous maltraite, quand quelqu'un nous fait du tort, alors que nous pensons que nous avons raison. Nous savons que nous sommes dans la droiture. Nous faisons ce qui est droit. Nous disons ce qui est vérité, ce qui est véridique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a souffert la persécution. Nous voyons ici, chers frères et sœurs, au verset 60, que Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Chers frères et sœurs, voilà, c'est là l'esprit que nous, vous et moi, devons avoir en toutes choses, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, la persécution, nous devons être prêts à pardonner aux autres, à demander à Dieu, Père Saint, ne les impute pas ce péché. Chers frères et sœurs, après avoir lu le verset 60 du chapitre 7 du livre des Actes, nous voyons que Étienne a passé le test. Étienne avait assez d'huile dans sa lampe pour tenir jusqu'à la fin, pour persévérer. Il semble que le pardon, la force, son attitude lui a donné la force dont j'ai parlé plus tôt. Ce qui semble être la clé de son succès. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas dit, ah bon, maintenant, je vais compromettre. Je vais faire du compromis. Je vais changer ma course. Je vais changer ma rhétorique. Non. Il n'a aucun effroi. Nous devons être prêts à suivre l'exemple d'Étienne. Veuillez vous reporter au chapitre 3. Au chapitre 3 de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 14. Pierre, chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Chers frères et sœurs, quel confort, quel réconfort. Vous et moi, nous n'avons rien à craindre. Parce que si nous devons souffrir pour la justice, nous sommes heureux. Aucune crainte, aucun trouble. Et vous, chers frères et sœurs, pardonnez-vous aux autres lorsqu'ils vous offensent et vous persécutent sans raison? Allez-vous sur vos genoux et demandez à Dieu de pardonner vos ennemis, qui vous ont frappé au visage, de vous cracher dessus, de dire toutes sortes de mal contre vous, de vous battre jusqu'à ce que votre peau littéralement arrachée de votre corps? Pouvez-vous pardonner à ceux qui vous accusent faussement de crimes que vous n'avez pas commis? Pouvez-vous pardonner à ceux qui vous ont fait du mal en se moquant de vous quand vous avez, on vous a demandé de porter une grande et lourde croix avec très peu de force. Et à chaque pas, une douleur atroce qui parcourt tout votre corps. Chers frères et sœurs, seriez-vous capable de pardonner à l'un de vos frères en Christ de vous avoir trahi en vous embrassant sur la joue, en prétendant vous aimer et en prétendant d'être votre frère et en allant jusqu'à recevoir 30 pièces d'argent pour vous faire piéger, pour vous faire tuer? Pouvez-vous pardonner à ceux qui vous ont brisé les jambes, vous ont cloué sur une croix, en se moquant de vous pendant tout le temps, alors que qu'on vous offre du vinaigre à boire au lieu de l'eau? Seriez-vous capable de pardonner à l'homme qui a pris une lance et l'a enfoncée dans votre flanc? À la fin, seriez-vous capable de crier avec amour et humilité, de demander à Dieu de le pardonner? Veuillez vous reporter au chapitre 14 de l'évangile de Marc. Marc, au chapitre 14. Et nous allons lire le verset 65. Marc chapitre 14, verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Maintenant, lui, c'est Christ. À lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Le Christ, celui qui a tout créé, il était là dès le commencement avec son papa. Dans l'évangile de Jean, nous lisons qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus loin, verset 14, et la parole a été faite chair. Le Christ, il a donné sa vie pour l'humanité, mais il a été trahi par l'un de ses apôtres. On l'a battu. On a craché sur lui. On voit ici, au verset 65, on commençait. Et quelqu'un se mit à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Ça, c'était le Christ, il souffrait beaucoup. Frères, comme vous savez tous, que personne n'a fait l'expérience de ce que Jésus-Christ a enduré. Cependant, il a dit aux apôtres et aux premiers chrétiens pendant son ministère sur la terre que tout en suivant le mode de vie de Dieu, tout qui suivent le mode de vie de Dieu comme lui, subirait aussi la persécution. Si vous et moi marchons dans les pas de Jésus, dans les sentiers du Christ, nous devons être prêts à être persécutés. Veuillez vous reporter au chapitre, à Jean, chapitre 15, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 20. Jean, chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Chers frères et sœurs, c'est parce que parfois on pense aux gens du dehors, on pense maintenant aux autorités du pays. Cela applique, ce verset applique aussi aux faux frères, aux païens, les gens de notre nation, nos concitoyens. Ça applique à tout le monde. S'ils acceptent le Christ, ils vont vous accepter. S'ils ont persécuté le Christ, ils vous persécuteront aussi. Ça c'est clair. Vous savez, frère, il est mentionné dans la Bible que Jésus-Christ a été battu avec un fouet connu sous le nom de chat à neuf queues. Chaque queue avait un morceau de métal ou d'os incrusté à son extrémité. Ce fouet était spécialement conçu pour arracher la peau directement de l'eau. Le fouet était si puissant qu'il pouvait désintégrer un homme après avoir été frappé au moins 39 fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus que 39 bastonnades. Et ça fait tout. Malgré tout ce que Jésus-Christ a enduré, il a demandé à son papa de pardonner à ceux qui l'ont persécuté et l'ont injurié avant de mourir. Veuillez vous reporter maintenant au verset 33 et 34 du chapitre 23 de Luc, l'évangile de Luc. Luc, chapitre 23, Luc chapitre 23, et nous allons lire les versets 33 à 34. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils lui crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Vous voyez, c'est que Jésus-Christ était innocent, mais on l'a placé parmi deux malfaiteurs. C'est que maintenant, ça, c'est un club, on dirait un club de malfaiteurs. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus-Christ a demandé à son Père de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Nous laissons ainsi l'exemple et nous devons suivre l'exemple du Christ de cette manière. Chers frères et sœurs, je vais vous demander une fois de plus. Like we say in English, one more time. En espagnol, otra vez. La persécution arrive. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes encore léthargique? Vous êtes encore de vous assoupir. Vous avez tellement de choses dans le monde, tellement de soucis. Vous savez c'est arrivé aux 10 vierges. Non, il fallait maintenant se croiser les bras, maintenant d'avoir un petit sommeil. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons être réveillés. Nous devons nous réveiller. Nous devons avoir notre lampe remplie d'huile. Nous n'avons pas eu à verser notre propre sang pour démontrer notre foi. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été jetés en prison pour avoir observé le sabbat ou les fêtes annuelles. Nous n'avons pas été battus avec le chat à neuf que pour n'avoir pas payé notre dîme, ou pour garder la fête des tabernacles ou les autres fêtes saintes. Notre corps n'a pas été déchiré et mangé par des lions sauvages pour avoir refusé de manger de la nourriture impure comme certains des premiers chrétiens. Mais un jour prochain, nous serons peut-être mis à l'épreuve. Et à ce moment-là, nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix. Combien d'entre nous, maintenant comme je le dis, sommes endormis et seront pris au dépourvu lorsque la persécution commencera? Persévérez-vous jusqu'à la fin? Comment allez-vous prendre soin? Comment allez-vous gérer vos sentiments lorsque vous êtes persécuté parce que vous devez garder le sabbat? Quand vous aurez été persécuté par vos collègues, par vos voisins, les membres de votre famille, ainsi que vos amis qui ne sont pas dans l'église. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, par les faux frères dans l'église. Chers frères et sœurs, nous devons passer le test maintenant. Nous devons nous tester nous-mêmes. Nous devons chaque jour nous examiner pour savoir si nous avons assez d'huile de notre lampe, si nous avons assez de courage, assez de force, assez de foi, assez d'amour, assez de patience, assez de bonté. Ce sont là les fruits de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes découragés, quand nous avons des doutes en nous-mêmes, quand nous avons des sentiments d'amertume, des sentiments de rivalité, des sentiments de haine, nous devons nous poser la question, sommes-nous prêts? Parce que nous aurons besoin de ces fruits-là pour tenir le coup jusqu'à la fin, pour persévérer jusqu'à la fin, pour développer le caractère saint et parfait du Christ en nous. Nous devons avoir assez d'humilité pour aller jusqu'au bout. Dieu permettra la persécution de notre vie personnelle afin de bâtir notre foi. Je dirais construire notre foi et notre caractère spirituel. C'est pas en vain. C'est pas que Dieu veut nous punir. C'est pas que Dieu veut nous laisser. Ok, chers frères et sœurs, aux yeux de Dieu, nous sommes, chacun de nous est une pièce d'or. Chacun de nous, Dieu nous regarde comme un métal précieux. Et vous savez, pour épurer l'or, on doit jeter dans le feu. L'or doit passer par le feu. On doit être épuré. Je me rappelle avoir donné un sermon concernant le mariage du Christ et de son Église. L'apôtre Paul nous a dit qu'il faut qu'on soit sans ride, sans quoi que ce soit, sans saleté. On doit purifier, on doit laver notre robe. Cela doit être pur. Chers frères et sœurs, vous et moi, voilà pourquoi nous allons faire face à des épreuves, à la persécution. Mais ce que nous savons, chers frères et sœurs, nous pouvons être sûrs qu'un jour viendra, Dieu va venger ses saints et la persécution du peuple de Dieu sera terminée. Tous ceux qui ont souffert pour la justice seront récompensés par une couronne de vie. et se verront attribuer des postes élevés dans le gouvernement de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. Dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra, je donnerai un nom nouvel. Celui qui vaincra, je donnerai de l'autorité. Il perdra les nations avec une verge de fer. Ça, c'est la puissance. Mais, chers frères et sœurs, il faut remarquer, il a dit, celui qui vaincra. Vous et moi, nous devons vaincre. Nous devons vaincre dès maintenant nos penchants charnels. Nous devons vaincre notre nature humaine. Nous devons vaincre. Nous devons rejeter les penchants du diable. Nous devons rejeter les influences de ce monde méchant, les philosophies de ce monde, les factions, les politiques du monde. Frère, Dieu va mettre fin à toutes ces choses-là. Veuillez vous reporter à l'écriture finale. Reportez-vous à Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Le dernier verset pour aujourd'hui. Apocalypse, au chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le diable va donner son autorité à des hommes, à des autorités qui vont nous persécuter. Peut-être certains d'entre nous vont être jetés en prison. Afin que nous soyons mis à l'épreuve, nous aurons une tribulation, nous aurons des tribulations. Mais vous et moi, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Même quand que nous voyons la mort, on va nous tuer. Mais si c'est pour le nom du Christ, pour la vérité, nous devons être prêts à donner notre vie. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Nous aurons la couronne de vie. Une couronne de vie. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous êtes confrontés à la haine et à la colère, méditez sur Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux.